Et maintenant, Clémentine, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz historique, astucieusement intitulé « Born to be alive ».
Oui, astucieusement, en effet, car c'est un clin d'œil à « Born to be alive ». Petit jeu de mots. On a remplacé « Born » par votre patronyme, « Bern ». Ça donne « Born to be alive ».
Je me suis longtemps demandé si vous me preniez pour une tanche, mon cher Jean-Luc, mais maintenant, je ne me pose plus la question. J'en ai la certitude. Allez, jouons, je vous en prie.
C'est parti, puisque vous le demandez. Une question pour vous, Stéphane. Le prix Pulitzer est un prix prestigieux, vous le savez. Du nom de Joseph Pulitzer, il est décerné depuis 1917. En 1981, il y a eu un petit cafouillage. Janet Cook a remporté le fameux prix, mais à l'époque, il fallait forcément avoir une carte de presse pour le recevoir. Il lui a donc été finalement retiré. Vrai ou faux ?
Je ne crois pas qu'il faut une carte de presse pour l'avoir. Faut être journaliste, enfin, faut publier un article de presse.
Est-ce que c'est pas plutôt une histoire de plagiat, ça, Stéphane, non ?
Je pense pas que c'est une question de numéro de carte de presse.
C'est pas un numéro de carte de presse, vous pensez que c'est pour une autre raison ?
Une autre raison.
Ok, on vérifie.
Vous avez gagné !
Bien vu ! L'histoire est beaucoup plus terrible que ça, puisque Janet Cook a remporté le prix Pulitzer en 1983 grâce à un reportage sur un jeune Américain de 8 ans accro à l'héroïne. Et elle a dû rendre son prix, car on a découvert ensuite que tout le reportage avait été bidonné.
C'est ça, oui. Moi, j'avais retenu plagiat, qu'il y avait eu triche.
C'était un gros bidonnage.
Ouais.
Une question pour vous maintenant, Clémentine. Une question chien à présent.
Ah. Non, ça, c'est pas juste.
Oh, écoutez, Argos.
Argos et les Argonautes, mais Argos n'est pas un chien.
Argos fut l'ami à quatre pattes d'Ulysse, mari de Pénélope et roi d'Ithaque. On reconnaît la légende, même après 20 ans d'absence.
Son chien le reconnaît.
Voilà. Oui. Le chien reconnaît son maître quand il revient de son long voyage. Tristesse, Argos va mourir assez rapidement. Mais voici ma question. Est-ce que oui ou non, Ulysse a eu le temps de caresser son chien avant qu'il ne trépasse ?
Je pense que oui, parce qu'il me semble que le chien est la seule personne à le reconnaître, parce qu'il me semble que la déesse protectrice d'Ulysse, est-ce que c'est Vénus, est-ce que c'est Athéna, je ne sais plus quelle est ça, lui a donné les traits d'un autre homme afin qu'il ne soit pas reconnu. Il est reconnu d'un vieux serviteur, me semble-t-il. Et de son chien, ça serait logique. Et en plus, Homère n'aurait pas voulu qu'Ulysse, séparé de sa famille depuis 20 ans, n'ait pas pu non plus voir son chien. Qu'en pensez-vous, Stéphane ? Moi, je répondrai oui.
La question précise, c'est est-ce qu'il a eu le temps de le caresser ?
Je crois qu'il y a eu un problème, mais je sais qu'il est...
Oh, l'escroc !
Parce que j'ai relu le texte il n'y a pas longtemps.
Mais c'est extrêmement triste, enfin.
Ça serait extrêmement triste, si c'est le cas.
Il n'aurait pas eu le temps de caresser son chien. Je trouve ça cruel, si vous voulez, de la part d'Homère.
Vous choisissez quoi ?
Moi, je dis il a caressé son chien.
Parce que
je suis pour l'amour.
Chien.
Et l'amour est plus fort que la haine et l'indifférence.
Eh bien, on va voir si l'amour triomphe.
Vous avez perdu.
Eh non, il a perdu l'amour.
Ouais.
Non, alors.
Homer, c'est pas cool. Hein.
Il est mort de joie en me reconnaissant.
Exactement,
oh, pauvre
c'est
Argos,
oh, c'est
je
beau.
N'ai pu, j'en ai comme un remords, te faire une caresse avant que tu ne sois mort. Le texte est écrit par François Ponsard en 1852, dans Ulysse, tragédie en trois actes. Quand Eugène Barrès traduit l'Odyssée en 1842, il raconte la même histoire. Oui, malheureusement, Argos a vu son maître. Il en est mort de joie.
Oui, ben c'est beau quand même. Il est mort de joie. C'est beau. C'est beau.
Oui, c'est un peu triste quand même. Une question pour Stéphane. C'est en 1860 qu'apparaît pour la première fois dans des documents italiens officiels le mot « mafia ».
Oh, c'est fastoche, je sais ce que vous allez me demander.
Ah bah, allez-y alors.
Bah, on prétend que la définition du mot mafia, c'était lié aux vêpres siciliennes et que si on décline chaque lettre, ça veut dire les Français, l'Italia d'abord est mort aux Français.
Voilà, exactement. Eh ben, c'est pas du tout la question. Mais c'était très intéressant, merci beaucoup Clémentine.
N'est-ce pas, hein ?
Au sein de l'organisation criminelle...
Elle fait les questions et les réponses, c'est bien ce que je pense.
C'est ça. Elle est très forte quand elle pose elle-même les questions. Donc, au sein de l'organisation criminelle, pour exécuter un traître, on utilisait la lupara. La lupara.
Moi, j'aimais mieux ma question à moi.
Un fusil qui servait normalement à chasser le loup. Loup, lupara, c'est logique. C'est logique, mais est-ce que c'est vrai ?
Il n'y avait pas une arme particulière pour...
Si.
Ah, il y avait une arme particulière pour...
Pour exécuter un traître.
Avec une arme réservée à la chasse au loup. Est-ce qu'il y avait des loups en Sicile, Stéphane ?
Oui, bien sûr. Je vais dire oui, allez.
Vous dites oui ?
Oui, oui.
Moi, j'aurais dit non.
On vérifie.
J'aimerais bien que vous plantiez.
Vous avez encore gagné.
Zut alors.
D'ailleurs, dans le parrain, on appelle l'oupara les fusils et canons sciés utilisés par les hommes de main de Corleone. Et au début du XXe siècle, on utilise plus volontiers le fusil mitrailleur, mais ça vous le saviez.
Oui.
La sulfateuse.
La sulfateuse.
Donc j'ai déjà deux bonnes réponses.
Vous avez deux bonnes réponses,
okay.
Mais
oui,
là.
Bon, on le saura. Bon, allez, salut.
Non, parce que là, c'est une question à deux points.
Ah bon ?
Oui.
Et pourquoi elle a toujours des questions à deux points et moi jamais ? Non mais. Attends,
parce que j'ai apporté un petit plus culturel
c'est ça,
sur la mafia.
Vous la privilégiez. Et après, vous osez dire que je perds toujours.
Elle va perdre. Hein. Elle va perdre quand même. De toute façon, d'accord. Qu'est-ce qui vous dit
j'aime
qu'elle va répondre à ces questions à deux points ?
J'aime bien les questions chiffrées de la fin. Là.
Eh bien, c'est une question à deux points pour vous. François-Félix Nogaret, écrivain, fils d'un premier commis du ministère de la Maison du Roi, fut également bibliothécaire de la comtesse d'Artois. Il a vécu 90 ans. Et chose étonnante, il a écrit une version érotique de Frankenstein ou le Prométhée moderne. 10 ans après le roman culte de Mary Shelley. Vrai ou faux ?
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'érotique dans Frankenstein ? Que la créature créée par Mary Shelley se mette à violer ou tombe amoureux ?
Oui, parce que dans l'érotisme, on a des trucs peut-être un peu plus...
Ouais, mais enfin, il est quand même pas jojo, le gars, puis il est plutôt violent.
Et
hein.
Alors, on a tous le droit à l'amour.
Bah oui, comme disait Argos, le chien d'Ulysse, mort de joie en le voyant. Écoutez, je dis non, il n'y a pas de version érotique, ça doit être autre chose.
Vous pensez que c'est autre chose ?
Faites-moi un petit signe, là, si vous voulez qu'on fasse la question. Ah bah non, oui, parce qu'en plus, ça vaut 2 points.
Oui, ça vaut 2 points, là, je ne peux pas vous aider.
Ah bah non,
vous êtes déjà aidé, je pense.
Ah bah oui.
L'autre, il va râler, là.
Ah bah oui,
Stéphane,
je râle
hein.
Déjà.
Bon, écoutez, alors, je dis une version érotique de 10 ans plus tard. 10 ans
ouais,
plus tard.
Il a écrit ça 10 ans après Mary Shelley.
Écoutez, vivant de nom, écrivez bien des livres érotiques. Ça, décrivez des œuvres érotiques. Est-ce que après
c'est
tout,
la mode.
Pourquoi pas ? Après
la
tout,
mode.
Pourquoi pas ? Allez, oui.
Allez,
il
oui.
Il a fait sa version érotique.
C'est bien, j'aime quand vous vous affirmez comme ça. On vérifie.
Vous avez... Et je suis désolée pour vous. Perdu.
Vous charriez, hein. Vous m'avez quand même influencé. J'avais
ouais.
Commencé par répondre oui.
Mais pas du tout.
Puis j'ai vu là vous
mais là,
bougiez
ça,
sur
elle
votre
creuse,
chaise.
Elle creuse. Ça lui fait moins 2 points du coup.
Ah bah de toute façon là, on est même à -4. Alors il faut que je vous explique quand même, parce que ce qui est troublant, c'est qu'il publie 30 ans avant le roman Frankenstein un conte où il imagine un inventeur du nom de Frankenstein qui crée un homme artificiel.
Ah c'est étonnant.
Vous en tirez les conclusions que vous voulez.
Ah, c'est peut-être de la cryptomnésie, en fait. Peut-être que Mary Shelley avait lu ce livre, elle ne s'en souvenait pas et elle a écrit son Frankenstein.
Peut-être, ou peut-être qu'elle s'en est simplement inspirée.
Bon, bah écoutez,
en tout cas, c'est
là, vous avez bien perdu.
Oui, là, on ne peut rien faire pour
bien,
vous.
Bien, bien,
bien
perdu.
Bien merdé.
Bravo, Stéphane.
Merci. Au revoir, Clémentine.